proper setting.
Why, it's just an empty stage.
At first glance, yes. But wait a second. A beautiful sunset. Mist from the distant mountains. Colored lights in a garden. A lady is standing on her balcony in a rose-trellised bower. Flooded with moonlight, we add 500,000 kilowatts of stardust. A soft summer breeze. And you sure look lovely in the moonlight, Kathy.
Now that you have the proper setting, can you say it?
Bonjour et bienvenue dans le Broad Clash, épisode 32. Aujourd'hui, un petit épisode spécial, ou pas, mais ça reste un clash, parce que moi, je suis Arnaud.
Et moi, je suis Laurent, et nous avons un invité aujourd'hui.
Et moi, je suis Michidar.
Et voilà, on a récupéré un, comment dire,
un spécialiste.
Un spécialiste, on va dire, oui.
Ouais, voilà, ouais.
On l'a un peu extrait de son milieu naturel.
Un petit peu grillé, hein, niveau spécialité, mais il va faire de son mieux, promis.
Je rappelle que vous pouvez entendre Michidar, mais il nous le dira tout à l'heure, tourner autour de Barberousse, on peut dire ça comme ça.
Je tourne autour de Barberousse, je fais partie de l'équipe de production des hors-séries de la playlist.
Même de la playlist tout court, parce que bon,
La playlist, je fais rien du tout à la playlist. C'est lui qui fait tout. Hein.
Par contre, on a tous fait la playlist ici, d'ailleurs.
Oui.
J'ai fait la mienne, on a fait des hors-séries ensemble, et vous ?
On a fait chacun.
On a fait la playlist. Pourquoi Michidar ? Michidar donc fait la playlist. Michidar, pour ceux qui ne le savent pas, mais il l'a déjà dit, est prof de musique. Et donc, on va parler musique, mais on va parler aussi cinéma, parce qu'aujourd'hui, on va se clasher, c'est un bro clash, comme d'habitude, presque. Enfin, maintenant, on fait des hors-séries. À propos d'un film hollywoodien de 2016 qui s'appelle La La Land, évidemment.
Et donc, on va quand même rester sur la même logique d'émission que d'habitude. On va commencer par les coups de cœur, même pour Michidar.
Voilà.
Et après, on démarre le clash. Donc, c'est quoi ton coup de cœur aujourd'hui,
Laurent ?
C'est
parti pour les coups de cœur. Alors, mon coup de cœur à moi, il va être en lien. Alors, attention, il va être un peu ardu, mais en fait, je vais faire un double coup de cœur exprès.
J'aime pas les trucs simples.
Non, c'est un coup de cœur pour un livre qui s'appelle That's Entertainment, écrit par Fanny Beuret. Alors, c'est un travail universitaire sur la comédie musicale et surtout l'âge d'or des films hollywoodiens de comédie musicale. C'est un tout petit peu en lien avec ce qu'on va parler juste après.
Un petit peu.
Fanny Beuret, donc, elle a aussi un podcast, j'en parlerai juste après. Fanny Beuret a fait tout un travail sur la comédie musicale des années 50 à 70, c'est-à-dire l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or, sur la représentation, sur ce que c'est que l'entertainment, parce que c'est un terme très américain, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça cache. Alors, c'est quoi l'entertainment ?
Je suis en train d'essayer de trouver une traduction.
Divertissement.
J'ai beaucoup réfléchi. Le divertissement, même. Merci Gilbert et Marité.
Et en fait, c'est beaucoup plus, enfin, il y a plus que ça. Elle parle aussi de représentation homme, femme, à travers tous ces films de Bugsy Berkeley, je ne vais pas y arriver. Évidemment, les classiques, Ginger Rogers, Fred Astaire, Gene Kelly, toute la bande. Ça arrive au début des années 60, je crois. Et
même 50, hein, puisque Singing in the Rain, c'est 52.
Pardon, au début des années 60. Et Fanny Beuret.
Mais oui.
Et Fanny Beuret fait un podcast aussi avec Anna, j'ai oublié le nom de famille, mais c'est pas grave, qui s'appelle All That Jazz, un podcast sur la comédie musicale, un peu de tout type. All That Jazz, c'est aussi un nom de film de musical qui raconte la vie d'un chorégraphe de Bob Fosse. Donc c'est à écouter. Le livre, il faut vraiment être passionné parce que c'est vraiment un travail universitaire. C'est un très beau livre.
C'est chez qui ?
C'est chez, je sais plus, merde, je vous le noterai, c'est pas grave.
Plomb.
Non, je ne sais plus par qui c'est édité. J'ai un petit trou de mémoire, mais je vous le mettrai dans le lien. Voilà. That Entertainment de Fanny Beuret, vous cherchez. Elle a aussi participé récemment à 42e Rue, qui est un podcast sur la comédie musicale fait par France Musique.
Une émission de France Musique qui est podcastable.
Qui est podcastable, merci. Je me fais engueuler par Walter quand on dit ça, ou par Phil Good.
podcastable. T'es sûr que tu risques pas de donner ta langue là ?
Ouais, des problèmes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. C'est quand vous êtes passionné par le sujet, c'est vraiment intéressant.
Et toi alors, Michel Dar, c'est quoi ton coup de cœur ?
Alors bah mon coup de cœur, je le dois à Laurent puisque hier il m'a dit oh, il faut que tu regardes ça. Moi j'ai déjà vu, mais donc au moment où on enregistre, nous sommes le lendemain de la sortie de la nouvelle vidéo tant attendue du fossoyeur de films.
François
Terrel, tout à fait, qui est un voisin, hein, puisque j'habite pas très très loin de son camp de base au Pandora à Avignon. Alors, j'ai pas vu toutes les vidéos du Fossoyeur de films, j'en ai vu beaucoup, j'apprécie beaucoup le style et je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir du garçon, mais alors là, cette vidéo qui vient de sortir, alors dont tu vas me rappeler le contexte parce que toi tu as un petit peu participé,
c'est les virées cinématographiques.
Voilà, les virées cinématographiques, mais
François en avait déjà fait une première avec le capitaine du Nexus 6 autour des lieux de tournage en Espagne du côté d'Almeria, la partie Sergio Leone et Conan entre autres. Et l'idée pour lui, c'est de retourner sur les sites et non pas de les retourner en tant que tel, mais d'y retourner avec un invité pour parler du ressenti par rapport au film et par rapport au lieu, le fait de les revivre en ayant aimé les films, ne souvent qu'elle s'est liée. Et cette deuxième virée, mais la première de la nouvelle série, et se passe donc au Maghreb.
Voilà, dans les déserts. Et sincèrement, on est complètement, complètement transporté. La vidéo est quand même pas courte. Hein. On est sur un bon petit docu maintenant, hein, 25 minutes. Et franchement, c'était très réussi, donc je remercie. Et surtout, allez, parce qu'il faut donner des sous. Et oui, parce qu'il y a besoin pour fonctionner.
Alors, c'est effectivement, fait 25 minutes, c'est un peu le format. Le format, il ne se gêne pas sur les têtes. Et pour chaque virée, il y aura un invité. Le premier étant Pivinova, le fameux vidéaste musicien, qui parle parce qu'il emmène des invités pour qu'ils évoquent leur ressenti par rapport au lieu où il les emmène. Alors, est-ce que tu te souviens des films qu'il a évoqués, des films ou séries qu'il a évoquées ?
Alors, j'ai vu un film d'Orson Welles qui se passait avec Daenerys, mais j'ai pas très bien
Othello.
Compris. Donc, il y avait les scènes d'Othello en même temps que celles de Game of Thrones. Et quoi ? C'est lui qui l'a dit. Il dit, là, il y a Orson Welles et si tu te tournes 3 mètres à droite, il y a Daenerys. C'est amusant. Ils ont évidemment repris la pose iconique en guise de générique dans le désert de Tataouine, en Tunisie, qui a donné son nom à la planète, dont on n'a pas le nom dans l'épisode 4, au fait. J'ai vérifié. Hein. Il ne me semble pas avoir entendu le nom dans l'épisode 4 de Tatooine.
Hein. Dintouin est évoqué au moment où Leia est torturée.
Faut vérifier.
C'est une bonne remarque. Je vérifierai. En plus, je mettrai même rien au script parce que c'est plus vite.
Et donc, Laurence d'Arabie. Tous les films, c'est pas compliqué. Tous les films où ça se passe un peu dans le désert, y compris des films français, Cocorico, avec Kev Adams. Et oui. Il faut pas rire. Il fait des films. Il en a pas parlé. Il y avait évidemment l'excellent Mission Cléopâtre également. Qui avait été tourné. Et c'est amusant de voir qu'en effet, les décors ont servi à beaucoup, beaucoup, beaucoup de films différents. Mon Dieu, comment je peux oublier ça ? Non, mais en fait, il est en train d'essayer d'imiter le fouet, mais ça ne marche pas du tout. Il faut faire « Wapa !»
C'est pas très podcast.
Non, ça ne marche pas. Et oui, donc évidemment, la scène d'Indiana Jones, qui est là, donc, quand il dit « Oh, vous savez, c'est pas bien d'être des nazis », qui est la même où il y a à peu de sauce près, R2-D2, non, la guerre des étoiles.
C'est le même canyon où étaient tournées les deux séquences.
Donc du coup, on est en train de vous spoiler énormément la vidéo si vous ne l'avez pas vue, mais on vous encourage quand même à aller la découvrir. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses intéressantes.
Alors, je ne l'ai pas encore vu en entier, j'ai vu juste le tout début, mais on est sur un traitement graphique qui est très proche de ce qui avait été fait avec Caméra Obscura, et du coup, c'est extrêmement... Enfin, rien pour la beauté, entre guillemets, de l'objet, jetez un œil, même si vous ne connaissez pas ou n'êtes pas encore vraiment, je dis bien pas encore un fan de François Terrel, allez-y, jetez un œil, c'est vraiment quelque chose qui, pour les amoureux du ciné, sont bien. Il a un Tipeee.
Un kiss bang bang,
parce qu'il a financé avec le Tipeee les 4 premiers épisodes de ses virées et d'autres productions, et il fait un kiss kiss bang bang pour finir la saison. Voilà. Ouais. Allez, jetez un œil. De toute façon, on mettra les liens dans le billet de l'épisode.
Il ne faut pas hésiter, et je termine en disant qu'ils ont vraiment des regards et des réflexions qui relèvent quasiment de l'histoire de l'art, et c'est tout à fait passionnant d'avoir ce genre de discours sur des chaînes YouTube. Donc, non seulement je valide, mais je conseille.
Je me permets juste de rajouter une dernière truc. François Torel, quand il a annoncé l'arrivée de cette vidéo et le changement de tonalité du Fossoyeur, n'a jamais cherché à se placer en tant que critique. Non, et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, son regard, comme tu dis, est vraiment plus proche d'un historien de l'art du cinéma, dans le sens observateur, contemplatif, chercheur du détail et de l'infiniment marrant ou de l'infiniment enrichissant. Et voilà, donc, pour ça que c'est vraiment intéressant.
Effectivement, moi, j'avais eu la chance de voir déjà cette virée au Maghreb qui nous avait diffusé lors du Frame Festival qui a lieu tous les ans à Avignon, en Avignon.
Comme tu veux.
Et où j'ai la chance de pouvoir aller, parce que je connais des gens pas loin. Et effectivement, donc voilà, il avait diffusé ça en expliquant que c'était un nouveau format qui a été financé aussi. Il a eu des financeurs globaux, voilà. Mais là, il se lance dans une série donc, de 4, une action déjà tournée. Il en prévoit 4 autres. Donc, allez sur le Kiss Kiss Bang Bang, vous tapez les virées cinéma et vous allez trouver. C'est un gros Kiss Kiss Bang Bang, c'est quand même presque 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Ça a bien démarré, mais voilà, faut vous soutenir. C'est vraiment des belles vidéos, c'est de la création comme on aime en voir. Alors, et toi, Arnaud, ton coup de cœur ?
Alors, moi, j'ai longtemps hésité entre deux choses, deux séries sur Netflix, parce que en ce moment, je me gaffe gentiment de Netflix. Et au final, je reste sur ma première intention, qui était la saison 2, je précise bien, de Titan.
Je n'ai pas encore vu, il ne faut pas trop spoiler.
Mais... Alors, je n'ai pas spoilé, je vais simplement dire, la saison 1 nous offrait un...
Rappelle-nous qui sont les Titans.
Alors, les Titans sont tous les sidekicks, grosso merdo, du monde de DC qui se sont regroupés pour faire une autre équipe à San Francisco.
Pour faire simple. Un peu résumé.
L'idée, on démarre, nous, sur la refondation de Titans.
Je suis sûr que j'en connais aucun. Vas-y, balance un nom comme ça.
Robin.
Ah si, ça va, je le connais. Tu parles du dessin animé là alors, non ?
Non. Il y a Young Titans. Alors les Young Teen Titans. Les Teen Titans sont une espèce de spin-off de plus fun, plus enfant des Titans.
D'accord,
là,
très bien.
On n'est pas du tout dans la tonalité enfantine. En plus, on s'est recontextualisé par rapport à un ancien run. Donc ça veut dire que les Titans ont existé, ont été dissous et reviennent. Et on est dans la logique de revenir. Je vais insister pas tant sur la saison 1 que sur la saison 2 où on a une très belle cohérence d'écriture. On a quelque chose de très, très... qui reste violent, brutal, adulte, et qu'offre vraiment...
16+.
Ouais, 16+. On va dire, ouais, pas adulte, 16+. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un autre pendant que de ce qui est proposé sur la CW avec Supergirl, avec Batwoman, avec les légendes. On est vraiment sur une autre tonalité, mais on est toujours chez du DC, et ça, c'est vraiment sympa.
C'est moins familial.
Ah oui, c'est nettement moins familial.
C'est pas familial du tout. D'accord. C'est pas familial du tout, même si le nœud du truc est la famille. Et je peux pas spoiler, mais si vraiment regardez là, parce que il y a une capacité à les piocher comme l'a fait dans ses débuts Arrow ou Supergirl ou Flash, à les piocher dans l'univers d'ici de façon complètement contournée, genre on va pas vous parler vraiment de ça, mais finalement si on vous en parle et on vous ramène des personnages d'un peu n'importe où et de façon assez cool, si on aime le comics, c'est vraiment une très très bonne série. Et si on aime le comics des années 90 suite à ce qu'avait amené Frank Miller, le côté violent, le côté réaliste, Titan, c'est vraiment top pour ça. Et les deux saisons sont vraiment de qualité égale. C'est du Netflix, ça veut dire que parfois le rythme est un peu étrange, mais on est quand même sur de la très très bonne série. Voilà.
Ouais, moi je conseille, j'ai vu la une, mais c'est très bien.
Et donc nous allons passer,
on va passer au clash.
Let you down. Nothing can get up off the
Et donc, nous allons parler de La La Land, sorti en 2016. Nous allons nous clasher.
Bravo, franchement. Non, mais moi, je voudrais savoir là, sur quoi on va clasher là, parce que faut que j'aiguise mes arguments. Je crois que je suis là pour ça, d'ailleurs. Hein.
Exactement.
Oui, ça passe. Alors, je vais juste repréciser une petite chose. Du coup, par rapport à ce clash, vous avez l'habitude quand c'est Laurent et moi. Mais là, on va avoir un camp, moi, et le camp, voilà. Les autres. C'est-à-dire,
en fait, on va...
Michidar et Laurent vont défendre le renouveau ou à défaut le film, alors que moi, je pense que c'est surtout pas un renouveau. Et c'est déjà tout juste
voilà,
un
on va élargir. Oui, non, mais... On va élargir évidemment un peu sur les films musicaux, parce que vous allez voir qu'on a vu beaucoup de films musicaux. Alors, il y en a toujours eu, mais il y a des périodes plus ou moins. Et La La Land a redonné un boost avec un Oscar. D'ailleurs, si vous vous souvenez, ça a été un petit souci, parce qu'il me semble que c'est pas eux, en fait, qu'au moment où il y a eu les Oscars, c'est pas eux qui sont montés sur la scène, parce qu'ils ont ouvert l'enveloppe d'avant, et donc ils ont appelé Moonlight avant de dire « Ah mais non, en fait, c'est La La Land, on s'est
trompé. »
Oui, oui,
c'était, voilà. c'est le fameux incident des enveloppes des Oscars.
Tout à fait. Alors, La La Land, c'est sorti en 2016, c'est un film réalisé par Damien Chazelle, qui est un franco-américain, parce qu'il parle très bien français. C'est important parce qu'il a aussi des références françaises, en fait. Et ça se voit pas mal. Alors, la musique est de Justine Horwitz, qui est son colloque de fac avec qui il a bossé depuis longtemps.
Je crois que c'est un duo Bernstein-Cosma.
Non, pas que. Avec, évidemment, Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend qui apparaît, J.K. Simmons, mais surtout, effectivement, Ryan Gosling et Emma Stone. Bon, ça raconte quoi? Ça raconte deux artistes. Lui est musicien, elle est comédienne, qui veulent réussir à Hollywood, à Los Angeles. Et on va voir leur parcours... professionnels, amoureux, leurs désillusions, leurs rêves, un peu tout ça, mis en musique très souvent. Donc voilà.
Il y a un amour et Harlequin sur le milieu d'Hollywood. Voilà, c'est ça.
Mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est effectivement. Alors, la comédie. Alors, enfin, est-ce que c'est vraiment une comédie musicale?
Il va peut-être falloir définir ce que c'est qu'une comédie musicale. Donc,
alors,
comédie...
attends, tu vas peut-être la définir, mais en tout cas, elle a été présentée, packagée, vendue comme telle. Ça n'est peut-être pas une comédie musicale selon les critères de l'élite. Mais...
Alors, les critères de l'élite, sachant que je ne suis pas l'élite, c'est pas compliqué. Techniquement, normalement, si on regarde dans l'histoire de la comédie musicale, il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il faudrait que tout soit quasiment tout le temps chanté et tout le temps en musique. Alors, j'en ai qu'un seul qui me vient en tête, hein, et c'est français. Ce serait les Parapluies de Cherbourg. Et un peu indigeste quand même que d'envisager tout le monde qui se parle en chantant toujours sur le fond de la mélodie. Ça se fait dans certaines comédies musicales sur scène. C'est évidemment aussi une manière de suivre l'opéra, en fait, puisque ça a toujours été ça. Ce sont des questions qui sont très très longues, hein, depuis très très longtemps, de savoir. Mais du coup, là, sur une comédie musicale, bon, déjà, ok, on va se dire, ça va représenter quoi? Le nombre de musiques qu'on va avoir dedans? Ou le nombre de scènes qui, normalement, ne devraient pas être accompagnées par de la musique et qui le sont. Donc, du coup, là, on est un petit peu quand même dans la comédie musicale, au même titre que plein d'autres films auxquels il fait allègrement référence. Voilà. Singing in the Rain, Un Américain à Paris, ou même Les Demoiselles de Rochefort. Donc, en ça, je pense que ce n'est pas non plus si cheaté que ça que de ranger La La Land dans une comédie musicale, dans l'acception cinématographique du genre.
Je suis relativement à peu près d'accord avec ça, mais le point, à mon avis, on va être le plus en désaccord, c'est que on est sur une construction d'un film qui est déjà vu, qui est déjà fait, qui est déjà montré, qui est déjà mille fois montré, et qui est en plus ultra référence, mais non pas. Il y a une façon. Les Star Wars de J.J. Abrams, on a dit il fait trop de références, trop de fanservice. Ben, imaginez la même chose appliquée aux comédies musicales. Et vous avez
La La Land. Je ne sais pas si c'est du fanservice.
C'est too much. Parce que, on passe constamment son temps. Enfin, moi, en tout cas, qui aime vraiment ça, les comédies musicales cinématographiques, je précise cinématographiques, je vois les références à chaque séquence. Je vois la construction du truc. Et ça me frustre parce que, au final, il ne fait pas de choix.
Mais c'est le plaisir.
Il ne fait pas de choix. Il fait de l'évocation. Ou rien.
C'est le plaisir, en fait.
L'évocation ou rien du tout, et son rien du tout m'exaspère. Et c'est d'autant plus exaspérant que la scène d'ouverture qui est encensée, et que je suis bien d'accord, et qui vaut tout le truc, elle est géniale, mais tout de suite après, on retombe dans une pseudo-évocation de Singing in the Rain, de Singing in the Rain, et ça m'agace, parce que là où il avait fait quelque chose de vraiment intéressant, d'évocateur, mais pas trop, avec cette scène dans l'embouteillage, on retombe sur du affreusement cheaté, copité. Tu copies 4 de comédie musicale des années 50.
D'ailleurs, pour l'anecdote, elle a failli pas être. Enfin, la scène d'ouverture, il y a un moment où le producteur, à un moment, ils ont dit non, on la coupe. Enfin, ouais, ils n'étaient pas tous convaincus,
oui,
non pas de la qualité. Mais
c'est juste un effet de style.
C'est une ouverture, en fait. Ouais, c'est une ouverture, ça veut dire que ça doit donner une force, quelque chose. Après, ce qui est particulier, c'est que notamment sur les films musicaux qu'on a vus récemment aux États-Unis, principalement, parce qu'en France, on en fait moins. Voire plus.
En plus fait, genre en France,
ça a été, c'était des adaptations de musicaux américains. On a eu Les Misérables, qui n'est pas américain d'ailleurs, qui est français.
Ça marche très bien aux États-Unis, mieux que chez nous d'ailleurs. Donc.
Les Misérables qui a été réalisé avec Hugh Jackman et. Comment il s'appelle Gladiator
Kurt Russell.
Kurt Russell.
Non. L'autre.
Alors, Hugh Jackman, il chante, Russell Crowe.
Il chante. Russell Crowe, on va dire qu'il est meilleur gladiateur que chanteur. Quoi.
Il y a eu ça. Donc Les Misérables, il y a eu Chicago qui a été adapté par Tobey Hooper, il y a eu Into the Woods qui était aussi une adaptation de comédie musicale. En fait, c'était, il y a eu Nine qui était une adaptation musicale de 8 et 2. À chaque fois, c'était des musicals adaptés au cinéma.
Le Roi Lion adapté, non pardon.
Oui, voilà. Bon. D'ailleurs, on y reviendra parce que finalement, le, voilà. Donc, quelque part, paradoxalement, Chazelle, il fait un sujet original. C'est-à-dire que c'est une comédie musicale qui n'existe pas.
Mais c'est alors, ça qui est frustrant, justement.
En fait, il y a pas trop pour une comédie musicale, il n'y a presque pas trop de chansons. En fait, il n'y a pas beaucoup de chansons. Le seul élément, et alors je reprends un peu ce que disait Michidar, pardon, le code de la comédie musicale, ce sont, et c'est là où, quelque part, Chazelle, il joue un peu avec, le code, pour moi, d'une comédie musicale, c'est des gens qui se mettent à chanter alors qu'ils ne...
Il ne le ferait pas dans la vraie vie.
Il ne le ferait pas dans la vraie vie, déjà, mais ça, c'est pas grave. Mais surtout, le personnage, quelque part, ne sait pas qu'il chante. En fait, vous regardez un Disney, la plupart des Disney, Mulan, je prends Mulan au pif, qui va être adapté bientôt en live.
C'est un bon exemple, hein. Ils sont faits comme des comédies musicales.
Mulan, elle se met à chanter, il n'y a aucune raison pour qu'une Chinoise du XIIIe siècle qui est en pleine guerre contre Attila se mette à chanter. Ça n'a aucun sens. Ou les Mongols. Ça n'a aucun sens. Donc Mulan, elle n'est pas censée chanter. Mulan, elle n'est pas censée se rendre compte qu'elle chante. À la limite, la princesse et la grenouille, elle est... Déjà, on peut se dire la Nouvelle Orléans.
Les serveuses, elle n'est pas supposée chanter.
Oui, non plus, mais bon.
La grenouille, elle n'est pas supposée chanter.
Le Roi Lion, excusez-moi, moi, le premier qui me voit un lion chanter, j'attends, je suis impatient.
Et je te parle même pas quand c'est un facochère.
D'ailleurs, il chante dans l'adaptation de Favreau, moi que j'ai pas vu en live.
Eh oui.
Je l'ai pas vu non plus, je suis désolé.
Oui, tout le film est identique.
Bien sûr que si, j'ai vu l'adaptation d'Hakuna Matata en live, donc dans
en animal velu réel, et c'est flippant. Voilà.
Donc c'est des codes, et alors le truc c'est que, en fait, pourquoi pour moi c'est une bonne idée de faire une comédie musicale et pourquoi La La Land est une vraie réussite, parce qu'en fait ça ne parle que le cinéma, ça ne parle, c'est le sujet du film, c'est les rêves, alors qui sont les rêves artistiques principalement d'Emma Stone et de Ryan Gosling, c'est leurs rêves, lui c'est des rêves de musique, de jazz, elle c'est des rêves d'actrice, ça ne parle que de ça, c'est le vecteur parfait, ça veut dire autant faire chanter... Effectivement, alors j'en reviens au Misérable, même si c'était une comédie musicale, mais autant faire chanter Jean Valjean, qui est le mec qui est au bagne à Cayenne, ça n'a aucun sens, autant faire chanter un acteur à Hollywood dans les années. C'est censé se passer dans les années 90, on ne sait pas bien d'ailleurs quand ça se passe.
Non, il n'y a pas de raison de décalage, il y a une Prius, c'est une voiture.
Oui, voilà. Et évidemment, c'est pétri.
C'était l'instant pub du broclage.
Évidemment, c'est pétri de références parce que. Mais moi, je prends ça comme un truc en disant. Oui, ça parle de ça parce que c'est des personnages passionnés de ça. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. Tu peux pas
Alors là, c'est le problème pour moi, il est justement là. C'est on a une démarche, comme je dis, et c'est là où pour moi c'est ultra frustrant et au final ce film me déprime profondément parce que on a une démarche, une séquence, une vraie ouverture, une ouverture de dans une démarche classique, mais qui te montre tout de suite un décalage et tout de suite derrière, au lieu de continuer à travailler cette originalité, de garder ce caractère d'évocation mais subtil, on se retrouve avec un Subhas Luhrmann qui nous fait juste une évocation des années 50 et quitte à faire ça, il va soit pas loin, soit pas assez loin, soit trop. Et on est vraiment, et c'est vraiment un truc qui me chiffonne parce que tout ce que tu as évoqué, tous ces éléments de référence, ils sont tellement là qu'au final, bah c'est plus original. On est dans une construction qui est très très proche d'un Singing in the Rain, avec, en injectant quelques séquences d'autres grands classiques. On a même dans les chorégraphies dansées, par exemple la scène de la route, là, de le promontoire.
C'est
Ginger Rogers et Fred Astaire.
Mais c'est voulu.
C'est terrible. C'est terrible au point qu'elle change de chaussures pour mettre les mêmes chaussures que dans la séquence. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien, c'est pas moderne. Ça ne modernise pas, ça ne renouvelle pas. C'est même l'originalité disparaît face à la notion d'évocation.
Alors, je comprends, sauf que moi, j'ai une question à te poser. Tu sens pas le vent de nostalgie qui, depuis plusieurs années, s'empare de nos créateurs?
Merde, nostalgie.
Qu'est-ce que tu as pensé du dernier Tarantino, du coup, Il était une fois Hollywood?
Mais il n'est pas nostalgique.
Ah, il s'inscrit quand même dans une époque qui est quand même vachement lointaine. Et je ne l'ai pas vu personnellement, hein, je parle juste du propos. Que au moment où La La Land sort, où il n'y avait pas certaines des comédies musicales, quoique si, bon, mais de toute façon, le genre comédie musicale adapté à partir du musical, on est bien d'accord qu'on ne peut pas le comparer à un film qui est fait comme une comédie musicale, comme c'était le cas avant L'Américain à Paris, ou Singing in the Rain, ou même de West Side Story, même s'il y a un lien avec la scène important dans ce cas-là. D'ailleurs, Singing in the Rain lui-même a été ensuite adapté sur scène.
Oui.
On attend de savoir si La La Land sera un jour adapté sur scène. C'est étonnant que Broadway ne l'ait pas encore fait, mais peut-être que justement, il n'y a peut-être pas suffisamment de chansons dedans pour en faire un spectacle musical où il faudra en créer des nouvelles. Mais,
et ça, c'est du travail, du vrai.
Et, oui, évidemment. Du coup, qu'est-ce qui te gêne dans La La Land qui ne te gêne pas dans d'autres films qui finalement vont tirer les mêmes ressorts en étant peut-être même...
J'aime bien
peut-être moins pointu en termes de voyance, parce qu'évidemment, c'est un hommage. Il l'a voulu comme ça, faut je veux dire, il ne s'est jamais caché. Ah. Au contraire, il a dit, regardez, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Il en est
mais il
très
dit pas,
fier.
Il ne dit pas, regardez, regardez, je te montre, je te le mets dans l'œil,
c'est
le fond, je te retourne, je te mets la couleur.
Mais non, c'est brillant.
Justement, non.
Toi, tu trouves ça pénible, mais moi,
je trouve ça
brillant.
Ultra pénible, parce que c'est vrai, très loin, parce que je trouve très malin le parallèle que tu as fait avec Il était une fois Hollywood. Tarantino place ses personnages dans leur époque des années 70. Et il décide au final, spoiler alert, je préviens, de toute façon, sinon on spoil, il finit par une uchronie. Il prend un axe et il les place, il les reste dans le contexte, il fait une sorte de carte postale. Oui, c'est nostalgique, mais lui fait une carte postale de son point de vue. Ce que ne fait pas La La Land, ce que La La Land fait, il te pose des personnages en 2016, il te dit, oh, bah finalement, ils vont chanter comme en 50. Et il perd le contexte à chaque chanson, il perd la réalité à chaque chanson. Et moi, au final, je trouve que c'est cet hyper grand décalage qui est naze. D'où ma référence à Luhrmann, quitte à aller aussi loin, autant faire du Moulin Rouge.
Luhrmann, quand il fait Moulin Rouge, c'est tout est explosé, effectivement, il va beaucoup plus loin. En fait, la nostalgie, une fois de plus, fait partie du propos du film. Le personnage de Ryan Gosling, c'est un nostalgique du jazz, il est chiant avec ça, il en parle tout le temps, il évoque les jazzmen à l'ancienne et tout. Elle est dans un fantasme aussi un peu ancien d'actrice quelque part. Voilà.
Monter à Hollywood.
C'est très rigolo parce qu'à un moment, il longe un tournage qui n'est pas du tout un tournage moderne. Enfin, moi, j'ai vu avec des amis, moi je ne suis pas spécialiste, mais personne ne tourne comme ça au début.
Il y a la même scène quand Debbie Reynolds se balade avec Jane Kelly dans les studios.
De plateau en plateau.
De plateau en plateau. Il le fait ici avec Donald O'Connor. Donc la référence, elle est très appuyée. En effet, ce n'est pas du tout actuel. C'est plutôt un renvoi aux années 50.
Mais tu peux aller plus loin. Comme le coup du Belvédère quand ils vont dans le planétarium. C'est comme quand dans le même film. Oh, c'est qu'il nous arrive encore, comme quel hasard.
Oui,
quand il relance le plateau vide et qu'il refait le coucher de soleil pour la draguer. Et c'est le premier baiser. Et c'est le premier baiser. Le niveau de parler avec Siggy Nzorin est vraiment hallucinant.
Je me rappelle plus, il danse pas sous la pluie, j'espère, dans La La Land quand même à un moment.
Sauf
que le propos pour moi est. Justement, c'est toujours le propos. C'est-à-dire que la fin de La La Land, c'est très drôle. Alors, évidemment, on a dit qu'on allait spoiler la fin. La fin de La La Land, ils se séparent, ça veut dire qu'ils vivent leur vie, ils réussissent tous les deux leur vie en sacrifiant quelque part leur amour, mais ils arrivent à leur rêve en sacrifiant leur amour. Et ce qui est pas du tout. Alors, j'allais dire. Si,
mais complètement con, mais non, en 2019.
Et tu veux savoir à quoi fait référence la fin au parapluie de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg, la fin, ils se séparent et ils se retrouvent dans une scène qui est déchirante. Alors, pour l'anecdote, il y a sur Allociné, vous trouvez ma scène préférée, qui est un petit programme rigolo. Damien Chazelle cite la fin des parapluies de Cherbourg où ils se retrouvent 10 ans après et tout. Attends, j'ai pas fini. Et du coup, Damien Chazelle, il est fait se retrouver dans un cinéma et tout d'un coup, il y a une espèce de projection de trucs où tu rentres avec là encore plus de références qu'avant, où c'est leur vie s'ils étaient restés ensemble. Et le discours de Damien Chazelle, ça veut dire que si ça avait été une comédie musicale hollywoodienne, voilà comment ça aurait fini.
Mais, sauf que sa conclusion avec le dernier regard fait qu'au final, ouais. Bah finalement, si on est quand même dans une comédie hollywoodienne qui finit bien, c'est une horrible rom-com tirée d'Arlequin.
Mais il a des producteurs, il faut bien qu'il gagne de l'argent, ce pauvre garçon. Regarde le succès que ça a fait.
Mais alors, malgré tout mon truc, je suis quand même relativement content du succès de ce type de film parce que je préfère ça à d'autres boosts qui ont autant de succès qui me dépriment. Mais où je préfère que La La Land ait du succès que d'autres choses, ça c'est clair. Mais.
Bah, je sais pas. Ça,
on a dit qu'on évoquerait jamais.
Ça gagne des sous, c'est ça. Bah, écoute, il faut bien qu'il y en ait qui mangent. Hein,
mais c'est vrai que. Mais sur le fond, après, je trouve dommage. Je le vois même pas comme une passerelle vers les vues anciens. Parce qu'une fois que tu as vu ça, tu as l'impression que les anciens sont bizarres, décalés, fadasses. Alors,
le succès, je fais un aparté sur le succès et sur les Oscars. Que La La Land a été Oscar du meilleur film.
Sans Weinstein.
Alors, en fait. Oui, c'est après Weinstein. En fait, c'est normal, le cinéma américain, l'Académie des Oscars, n'aime jamais rien autant qu'on parle d'elle. The Artist ne parlait que du cinéma, Oscar. La La Land parlait du cinéma, Oscar. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, elle vit au-dessus d'un cinéma et il y a des séquences où ils sont dans le cinéma. Dès que le cinéma montre un peu de nostalgie et parle du cinéma, les mecs, les Oscars, ils sont au taquet. Après, c'est un film, on va faire aussi un aparté, formellement hyper réussi. C'est-à-dire que Chazelle, c'est quand même son deuxième film, je crois, après Whiplash, qui était aussi un propos sur la musique. Il y a une forme, certes, qui est, on va prendre la scène des filles au départ où elles s'habillent, où elles ont toute une robe de couleur, où les murs sont d'une couleur vive.
Les quadricolores ?
C'est les demoiselles de Rochefort, c'est vraiment les couleurs vives, les trucs. C'est hyper maîtrisé, c'est du plan séquence parce que ça te donne une fluidité et effectivement une impression. Alors, il en fait beaucoup pendant le film, mais.
C'est pépé plan séquence, bordel.
Formellement,
il n'y a pas une séquence, il n'y a pas un plan d'au moins 20 secondes.
Et ça veut
dire un plan d'au moins 20 secondes.
Ça se veut en référence au spectacle de Broadway qui est toujours d'un seul tenant, au spectacle vivant, voilà.
Mais
voilà.
D'ailleurs, si tu veux, je suis d'accord avec ces hyper références, mais c'est pas subtil. C'est passage de truelle sur passage de truelle, c'est y a un vrai, si tu veux, on en revient toujours à ma problématique qui est, je suis quelqu'un au contraire qui adore le côté référentiel, le côté on peut être hyper référentiel quand c'est bien fait, j'ai aucun souci avec ça, mais là c'est trop, il y a un moment c'est trop, si t'aimes un tout petit peu le type de support, tu vois constamment la référence, tu ne le vois que ça, et la seule chose qui sauve ce film, Dieu merci, c'est son casting. C'est Emma Stone et Ryan Gosling. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, Ryan Gosling, c'est un peu notre mascotte parce que ça fait trois fois de suite qu'on fait des clashs où il est central. Hein. Les Blade Runner, le Drive, le tout premier, et celui-ci. Je crois que c'est l'acteur dont on parle le plus dans tous les clashs. Passons. Mais vraiment, c'est vraiment eux. Et heureusement qu'eux sont là, parce qu'au final, c'est eux qui te ramènent l'émotion, qui te ramènent l'intérêt, parce que t'aurais mis n'importe qui d'autre avec un charisme d'huître, le film, il était invivable. Invivable.
Thank you.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre un petit peu là sur le tapis. Tu es embêté par toutes les références ultra visibles à la truelle, hein, je te reprends, d'accord. Tu sais que tout le monde n'a pas ta culture. Mais... Et que quand les gens vont voir La La Land, il y a plein de gens, c'est peut-être pas le cas de nous trois, mais qui se sont pas dit « Oh là là, Malboa, tout », etc. Et qu'on joue juste peut-être une comédie musicale comme Singing in the Rain, peut-être qu'ils en avaient vu des extraits, ouais. Peut-être que... Je suis pas sûr que tout le monde maintenant, que ce soit de notre génération ou éventuellement un petit peu plus jeune, aient vu forcément Singing in the Rain en entier, ou si c'est le cas, c'était il y a très longtemps. Je suis pas sûr qu'ils aient vu tous Les Demoiselles de Rochefort plus que la scène qui est connue.
Ça c'est plus dur.
Et du coup, ou soit familier des couleurs et de la manière de danser dans les films de Jacques Demy.
Je suis d'accord avec ça.
Et ou de la musique d'Audi... La musique de Michel Legrand, je vais dire Audier,
Cosma ou même Bernstein, tu peux citer les trois. Hein.
Ou Bernstein, ou en l'occurrence, tout ce qui a été fait sur Singing in the Rain. Donc, il y a peut-être des gens pour qui La La Land est tout simplement comme une espèce de porte d'entrée dans le milieu de la comédie musicale hollywoodienne. Et bah, force est de constater que depuis les années 50 et la fin des années 50, tout début 60, des comédies musicales hollywoodiennes, il n'y en avait plus. Et on les a citées tout à l'heure, que ce soit Jane Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds, tous ces grands noms, Fred Astaire, Ginger Rogers, comment est-ce qu'elle s'appelle, bon, plein d'autres, tous, Judy Garland, tous ces gens-là ont eu une, enfin, on le sait nous, une telle aura dans le cinéma de l'époque, le divertissement dont on parlait tout à l'heure, que c'est peut-être pas plus mal aussi de pouvoir réentrer avec un petit peu de modernité. Peut-être très, 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 très visible pour se permettre, peut-être après, sans trop forcément les trouver fades, de revoir éventuellement ce qui s'était fait avant et qui a donné naissance plus tard à La La Land.
En fait, ce que dit Mathieu est intéressant parce que, effectivement, ça a réouvert quelque chose parce qu'il a débouché plusieurs choses de suite à La La Land et même un peu dans le courant parce que c'est jamais La La Land qui marque, mais le succès médiatique. D'abord, on a eu plus de films musicaux originaux. Autre que Disney, parce que Disney, il faut savoir, il y a un moment où c'était le seul moyen d'entendre chanter au cinéma. Hein. C'était
non,
Disney,
ça, je suis d'accord.
Hein.
Non.
Voilà. Mais, alors, je ne parle pas des remakes live de Disney, parce qu'à un moment...
Attends, voilà. Juste rebondir sur un truc. Je comprends qu'on puisse parler d'ouverture, mais il y a un moment, tu peux faire de l'original qui fait référence à... Tu n'es pas obligé d'être à ce point, par moment, cloné.
Bon, enfin, je m'excuse, mais c'est ce que... Chazelle, là-dessus, il a fait son Tarantino par rapport à la comédie musicale, mais c'est un peu le même concept. Je parle même pas de Once Upon a Time, je parle de tous les films avant.
Voilà. C'est plus...
Mais ce que je disais, ce qui a ouvert d'autres trucs...
J'aime bien ce que tu dis, parce que malgré tout ce qu'on peut dire de Tarantino, il a un vrai recraché. Tu vois c'est quelque chose que je ne vois pas dans La La Land.
D'accord.
C'est quelque chose que je vois pas. Je dis pas que
Tu te rappelles d'Ocean Eleven?
C'était déjà un remake d'un remake.
Non, mais je veux dire, dans le cliché et dans les grosses ficelles du cinéma d'avant et
Non, mais là, on parle de tirage de poutre, là.
On
oui, je suis d'accord.
Et pourtant, le film est génial. Donne envie presque de voir des films. Alors, je m'excuse, c'est mon avis que je donne. Moi, j'ai trouvé le film vachement bien fichu, très bien joué. Il y a d'autres personnes autour de la table qui apprécient. Mais surtout, qui donne envie et qui se remet un petit peu dans l'ambiance de films qui étaient tournés un petit peu comme ça avant, mais qui étaient... Voilà, c'est pas non plus. Je comprends
Ocean
bien.
Ocean Eleven est moins référentiel, tu vois. Même si c'est un remake, il est moins référentiel. Mais... Il garde. Tu vois, on en revient à ma problématique du rapport à la séquence d'ouverture avec le reste du film, qui est la séquence d'ouverture est évocatrice, mais moderne. Ocean Eleven a un traitement moderne d'une vieille histoire, ce qu'il n'y a pas après la séquence d'ouverture dans.
Là, c'est particulier parce que. Une ouverture, Mathieu le dira peut-être après, c'est particulier parce que. Il y a des ouvertures, j'ai un tout petit trou de mémoire sur Les Demoiselles de Rochefort, mais il y a des ouvertures où il y a tous les thèmes du film qui vont venir juste dans une forme de ballet, ça se fait souvent, c'est un truc classique d'ouverture. Ou alors c'était un truc pour se mettre dans l'ambiance, en fait. Entre guillemets, l'ouverture de La La Land, c'est la Californie, c'est le soleil, c'est Los Angeles.
Alors, c'est à l'autoroute blindée, en plein embouteillage.
Ce que je disais, juste avant, c'est que ça a ouvert donc, sur plusieurs choses. Ça a ouvert sur, donc, sur des films musicaux qui reviennent, on a eu une série de biopics musicaux. Alors, et là, on va évoquer Bohemian Rhapsody, Rocketman. On a bientôt un biopic de Judy Garland. On a bientôt des choses comme ça. Alors, on va l'évoquer un peu après.
On est plus dans un rapport nostalgique que dans le fait de refaire du film musical.
Sur les
deux. Parce que c'est des films qui parlent de chanteurs, donc qui vont nécessairement avoir des parties musicales. Rocketman,
Rocketman est une vraie comédie musicale.
C'est vrai ce que tu m'as montré. On revient à ce que je disais. J'ai pas vu en entier, mais c'est vrai qu'on est plus dans le
Rocketman. Rocketman, des fois, il se met à chanter alors qu'il n'est pas censé chanter. Mais aussi, on a aussi en France, on a Christophe Honoré qui s'est mis à faire des films, les chansons d'amour, et j'ai oublié le deuxième, avec Chiara Mastroianni, avec plein de gens qui se sont mis à chanter. Aussi, voilà, il y a une volonté. Alors, ça, c'est rigolo parce que quand Christophe Honoré fait des films musicaux, il y a un côté très nouvelle vague aussi. Alors, la nouvelle vague, en fait. Jacques Demy était quelqu'un de la nouvelle vague avec Agnès Varda. Quand ils font Cléo de 5 à 7, ça chante. Il y a Michel Legrand, donc tout ça est connecté quelque part. Et Chazelle, il est là-dedans. Pour une dernière anecdote, Michel Legrand, il n'était pas encore décédé. Feu Michel Legrand, il a vu la première de La La Land avec Damien Chazelle. Il était hyper ému. Et il a dit à Damien Chazelle, bien sûr que. Je vois ce que. Et Damien Chazelle a dit voilà, nous, la connexion, elle est là, quoi. Elle est réelle, quoi. Et donc, il s'en cache pas. Mais je trouve que. Moi, c'est joliment fait. Et effectivement, ça te donne envie. Mais il n'y a pas que ça. Le film parle aussi de la fureur de vivre. Ils vont au cinéma. Enfin, voilà. Alors, le seul, peut-être, défaut du film, pas un défaut, c'est que si tu n'es pas intéressé par le cinéma des années 50, tu vas trouver ça chiant comme la mort, quoi. Si tu n'es pas sensible au cinéma. T'en as rien à foutre que cette nana ait réussi, c'est que lui, alors lui, il fasse son pianiste de jazz, mais c'est des films extrêmement auto-centrés. Autant Whiplash est parlé de jazz et d'enseignement, autant c'est des films hyper auto-centrés sur j'aime le cinéma, je parle de cinéma. Quoi.
C'est un film qui est. C'est alors, pour le coup, le côté purement cinématographique, c'est un vrai objet de cinéma. Moi qui suis très accro au langage filmique, au langage cinématographique, à la valeur du cinéma en tant que tel. Alors pour le coup, là je suis d'accord, le film est un vrai film. Le scope, qui est d'ailleurs avec l'anecdote du démarrage, le scope, les plans séquences, la lumière travaillée, le tournage en lumière réelle, enfin en utilisation d'environnement réel en essayant de conserver la lumière. Oui, je suis d'accord, c'est un vrai objet de cinéma. En ça, je te rejoins sur le coup de... Les gens devraient le voir dans le bon sens du terme. Mais je n'arrive pas à me dire que c'est un pont parce que tu peux pas. Ça a tellement un niveau de plâtrage, de séquence, de moments que tu peux pas. Quand tu vois les autres, tu comprends pas. Il y a des moments où tu vas être dans décalé. Si ça t'attire vers les autres, de toute façon, tu aurais déjà eu une culture, tu aurais déjà eu des éléments. Donc c'est pas, ça ne peut pas être une ouverture. On est vraiment dans une force de nostalgie et d'évocation, mais qui ne peut pas aller plus loin.
Moi, je trouve que souvent, il la détonne un peu. Il y a une scène. Où il prend la voiture, toi il l'emmène. Alors évidemment, c'est une espèce de plan séquence. Elle monte dans la voiture, il s'embrasse, il part, il tourne à droite et puis tout d'un coup elle gueule. C'est un sens interdit, hop, tu le vois reculer. Donc je trouve que souvent il démonte un peu ça.
Bah, c'est comme le fait qu'il soit constamment arrêté par une sonnerie.
Trop kitsch. Et en fait, c'est vrai que le parallèle avec Singing in the Rain est intéressant parce que Singing in the Rain parlait de cinéma, parlait d'une modification du cinéma, parlait des coulisses du cinéma.
D'un gars qui vient de rien, qui devenait quelqu'un.
Non mais voilà, donc Singing in the Rain ne parlait que de ça. Et finalement, c'est pour ça que c'est des films aussi en commun, parce que c'est des films qui parlent d'eux-mêmes. Alors voilà, c'est un côté hyper égocentrique cinématographique, mais c'est assez brillant. Et je trouve que le cinéma n'est jamais aussi génial que pour parler de ça. Quoi.
Bah, c'est sa force. C'est un médium qui est capable de s'auto-cannibaliser et d'en faire quelque chose de potable.
Moi, je continue quand même à penser, pour répondre à ta question et à la question que tu poses, que tu rappelles d'ailleurs, parce que des fois, on est... Tu le prends sur... Donc, ce film, c'est un...
Bordel sans nom.
Toi, tu dis que c'est un bordel sans nom.
C'est pas... C'est-à-dire, il est... Le fond du truc, c'est que je le trouve tellement frustrant de ne pas aller jusqu'au bout de son concept, c'est-à-dire de moderniser un regard tout en faisant des évocations de référence et au final, de ne faire que rappeler, regarder comment c'était bien en 50. Et finalement, on n'a pas fait mieux.
Mais du coup, tu as dit, Baz Luhrmann a fait des choses qui étaient...
Ah oui, mais moi, je suis un grand amoureux de Baz Luhrmann.
On peut très bien apprécier grandement le travail de Baz Luhrmann et regarder ce film de Chazelle en se disant, bon...
Mais si tu veux vraiment que j'ai jusqu'au bout de la comparaison de Baz Luhrmann...
Il est réussi. Mais on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. C'est pas possible. C'est impossible. Quand tu regardes...
Oui, il y en a un qui est original.
Bah, mais c'est normal en même temps. Et tu te rends compte du monde que crée Baz Luhrmann ?
Oui, justement. Bah, c'est ce que je dis.
Évidemment, bah, je sais bien.
Tu peux pas
imaginer une seule seconde que quelqu'un comme Chazelle qui veut faire La La Land va le faire comme s'il était Terry Gilliam ou Baz Luhrmann.
Tu veux dire la Terry Gilliam ?
Hein ?
Tu vends du rêve, Thierry Guilhem, quoi, une comédie musicale.
Pourquoi pas ? Il pourrait, hein, il en a fait des choses.
Oui.
Hein, always look on the right. Moi, je prends. Hein. Au passage, il y a une version, chantée qui existe, qui a été faite en oratorio sur scène à Londres il y a quelques années. Je la conseille à tout le monde, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est que voilà, Chazelle, il répond aussi quand même au code de... Même s'il le fait très bien, il répond quand même au code d'Hollywood.
Ah mais au contraire, il n'en décolle pas. C'est bien mon souci. Il est stricto sensus dans
Hollywood. Non, tu te rends compte qu'il est dans les codes d'Hollywood, mais de il y a...
Mais oui, c'est bien ça le problème.
Mais ça veut dire qu'il y a un trou de combien ? De 30, 40 ans pendant lequel on n'a plus fait de cinéma comme ça ?
Non, alors par contre, on en revient à ce qu'on disait au début, on a un trou de 50 ans sur les comédies musicales.
Et on n'a pas fait de cinéma comme ça pendant 50 ans. Donc quand je te dis que c'est une ouverture, c'est obligé.
Non, c'est un rappel.
Oui, mais il faut. Alors là, du coup, c'est une piqûre de rappel, parce que là, on est un petit peu obligé. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu du cinéma filmé comme ça. Mine de rien, même si en effet c'est très référencé, il fallait le faire. Ça veut dire que La La Land est quand même un film audacieux. C'était pas dit que ça allait marcher comme ça.
Il fallait le faire. C'était pas dit
que ça allait marcher. Je pense qu'il fallait le faire. Je suis très content qu'il l'ait fait, parce que même si il a probablement plein de défauts et tu pourrais mettre le doigt dessus à chaque fois, je te dirais ah oui, en effet, c'est peut-être abusé, les couleurs, les machins, les tout ça, et là la ficelle est trop grosse. Ça reste la première vraie comédie musicale hollywoodienne qu'on ait eue au cinéma depuis 50 ans. Et rien que déjà ça, ça répond à ta question.
Oui. Mais non. Alors, après, pour finir la partie sur Baz Luhrmann, quelque part, je trouve Baz Luhrmann, que j'aime beaucoup, hyper putassier, beaucoup plus putassier que le Chazelle, parce que c'est outré, ça veut dire qu'il va dire « je vais te mettre des... » En plus, le côté Moulin Rouge, c'est la Dame aux Camélias, c'est-à-dire que tu sais dès le début qu'elle va mourir de... C'est la Dame aux Camélias, je crois.
Oui, c'est la Dame aux Camélias.
Ou la Traviata, chez les mêmes, c'est ça, c'est...
Ils sont beaucoup à mourir, on sait déjà dès le début, ouais.
De la tuberculose.
Butterfly aussi. Non, mais ils meurent tous.
Mais si il va pas, te mettre, c'est-à-dire qu'il va te mettre du Nirvana, il va te mettre du Beatles. Luhrmann, tu regardes la scène de l'éléphant, le duo d'amour de l'éléphant, où tu as 15 chansons pop enchaînées avec des petits bouts du Joe Cocker, du machin, du truc. Il y a un côté putassier.
Et les ficelles sont grosses, hein, je te le dis.
Oui,
hein.
Mais
même si c'est très bien fait et que le travail d'Armstrong est excellent dessus, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Vig.
Non, Craig Armstrong, oui, c'est ça.
Le musicien.
Le musicien, le travail d'arrangement est génial. Les ficelles sont très grosses. Et quand tu regardes Moulin Rouge en connaissant un petit peu...
Mais
c'est génial.
Il fait une scène dans Moulin Rouge, Arnaud aime beaucoup Sting. Il fait une scène où il reprend Roxane. Je veux dire, c'est fabuleuse, c'est très beau. Mais alors, il met tout à 2000%.
T'es en 2003,
Moulin Rouge.
Je crois que c'est ça, 2002, ouais.
À l'époque, je suis bah oui, mais là, tu vois, on parlait de continuité, de fait qu'il n'y ait plus de film qui a été fait depuis 50 ans. À défaut, lui offre et propose quelque chose de nouveau dans l'esprit d'une comédie musicale pour moi. Ce qui me frustre et me gêne, c'est ce côté qui n'est pas qu'évocateur. C'est un copycat, La Land. C'est dommage. Mais parce que je le répète, c'est d'autant plus dommage que oui, je suis comme toi, je le montrerai ce film à ma fille, je le montrerai parce que ce truc est quand même vachement sympa et que le casting pour une fois avec Ryan Gosling et Emma Stone tiennent ce truc à eux tout seuls, mais vraiment au sens premier du terme. Tu mets n'importe qui d'autre, le truc perd quasiment tout sa richesse.
High School Musical, quoi, après. Mais enfin, en tout cas, il y a vraiment un truc. Alors, finalement, c'est vrai que la comédie musicale est repartie aussi. Alors, en France, aux États-Unis, on a eu Glee aussi. On a eu des éléments comme ça qui ont relancé Crazy Ex-Girlfriends, qui ont relancé des choses aujourd'hui sur la comédie musicale qui passe mieux aujourd'hui depuis les années, début des années 2000. Malgré tout, ça n'avait pas atteint le niveau, de La La Land. Et La La Land a réamorcé. Et je maintiens. On va parler 5 minutes de Rocketman parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que je préfère à Bohemian Rhapsody pour plein de raisons, notamment pour le côté comédie musicale. Ça veut dire qu'il y a il y a une scène de restaurant où Elton John chante Sorry Seems to Be the Hardest World. Alors en plus, ça devient complètement ouf parce que il est en restaurant, il traverse une crise parce que c'est l'histoire d'Elton John qui a beaucoup de problèmes parce qu'il se drogue, parce que machin. Il traverse une crise, il commence à chanter au restaurant. Sorry seems to be the hardest word. Désolé, il semble le plus difficile à dire. En fait, c'est une chanson à lui. Il la chante, mais il n'est pas censé parce qu'il la chante au restaurant, ça n'a aucun sens. Donc, c'est une vraie comédie musicale avec des séquences de comédie musicale. Donc, c'est bien et on va en avoir. Alors, on a eu un accident industriel il y a quelques semaines. ils ont voulu adapter Cats au cinéma en... ça a été un accident a priori industriel parce que dès les trailers, tout le monde hurlait.
Alors, l'accident industriel, a priori, il est sur les parties VFX. Hein. On n'est pas sur le fond.
Mais non, parce que le fond, Mathieu nous en donnera un mot aussi, il se souvient. Le problème de Cats, c'est que c'est adapté avec la musique de l'époque et Cats commence à vieillir un petit peu dans ses arrangements. Et Cats, c'est des poèmes. C'est pas un livret, hein. C'est des poèmes, c'est des chats dans une décharge. Tu vois une succession de portraits de chats et à la fin, il y a le chef des chats qui choisit un des chats pour monter au ciel. C'est Andrew Lloyd Webber qui a certaines qualités, comme le fantôme de l'opéra, mais c'est assez kitschouille. Je vous conseille, il y a un fantôme de l'opéra par Michael Schumacher, le cinéaste de Batman Forever, qui est hyper kitsch. De toute façon, c'est kitsch, Andrew Lloyd Webber. Le projet, ça devait être un accident industriel. C'est pas une bonne idée comme idée d'adapter au cinéma Cats. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de trucs à adapter. Spielberg va nous faire West Side Story l'année prochaine.
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée à refaire parce qu'il a vieilli. Non, parce que Natalie Wood en portoricaine, bon, c'est bien qu'on refasse en fait des vrais portoricains en fait.
De toute façon, Natalie Wood n'est pas disponible. On pourra la couper si tu veux. On coupe pas au montage.
On coupe pas au montage. Du barbe rousse, on coupe pas.
Salut patron.
Pour revenir à ce qu'on disait, c'est marrant que tu votes Spielberg parce que j'ai un énorme problème avec Ready Player One parce que justement, qui est dans une même contextualisation de des côtés nostalgiques, évocation, mais en même temps de replacage de modernité.
Et le casting est naze.
Lui, il a un énorme problème de casting, sans parler d'un énorme problème pour moi de traitement. Mais ça, pour moi, il y a un souci dans le traitement et dans l'intention même, au-delà du bouquin et du film. Il y a une incompréhension du coup du sujet qui est vraiment flippante, quoi. Qui est vraiment flippante parce que flippante par rapport à la qualité qu'avait jusqu'ici ce réalisateur à comprendre ces sujets. Pour moi, il y a un vrai souci. Qu'il fasse West Side Story, pour moi, c'est pas une bonne idée. Pour moi, ça n'est pas une bonne idée.
Dans le cas de Ready Player One, les ficelles sont trop grosses. Moi, ça m'a
rappelé un truc.
Ça m'a rappelé. Non, mais justement, ça m'a plus rappelé les mondes de Ralph, tu vois, pour parler de Disney. Si tu connais pas, parce que là, les ficelles, elles sont grosses aussi, tu peux y aller. Des fois, ça marche, et puis des fois, ça marche pas. Je maintiens que les ficelles de La La Land viennent de suffisamment lointain pour que moi ça pose pas de problème. Et je travaille avec des jeunes. Beaucoup ont vu La La Land sans nécessairement avoir tout le regard sur la comédie musicale qu'on porte nous maintenant. Et non seulement ils ont apprécié parce que c'est nouveau, je suis désolé à dire, parce que pour eux c'est nouveau à voir, parce qu'ils n'ont pas tout le corpus d'œuvres que nous on a en tête et toutes les références. Donc on parle de moins de 20 ans maintenant, mm-hmm. Pour les enfants, dont je parle, les élèves dont je parle, que ce soit au collège ou au lycée. Et du coup, ils ont porté un regard beaucoup plus intéressé sur cette période du cinéma. Et c'est en ça que je te dis que ça a été une porte d'entrée. Personne n'est venu me voir en me disant « Ah mais oui, mais c'est moins bien. » Pourquoi ? Parce qu'il y a 50 ans qui s'est passé entre les deux. Ils savent très très bien que le cinéma ne fonctionnait pas de la même manière. Et ça permet tout simplement, comme peut-être The Artist l'a fait avec les films muets de Chaplin et tout, etc. Je ne sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Je pense que oui, parce que je me rappelle l'engouement qu'il y avait autour de The Artist. Un film appréciable, de là en faire un truc complètement incroyable, ok, soit, moi j'ai pas accroché plus que ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui, voyant The Artist, se sont intéressés à revoir les films de Chaplin ou tout simplement à les faire découvrir peut-être à leurs enfants.
D'un autre degré, j'ai le même souci avec The Artist, qui est un très beau film, un très bon film, mais dont, pareil, on parle d'un film qui a eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure interprète.
Comme La La Land, d'ailleurs.
Comme La La Land. Meilleur film et meilleure musique, je crois.
Ils ont eu meilleure musique aussi.
Ouais. Mais The Artist, moi, c'est un bon film. Oui, c'est une incroyable évocation. Ah, mais il y a deux minutes, il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Non, c'est trop. Et quitte à choisir, alors là, pour le coup, parce qu'on parle de trois films d'évocation, que ce soit Ready Player One, The Artist et La La Land, je préfère largement, en ordre décroissant, en premier La La Land, évidemment, après The Artist, parce qu'il est beaucoup plus compliqué d'aborder un film entièrement muet en 2020, faut être honnête, par n'importe quel public. Les gens qui s'intéressent encore au muet et qui sont capables d'appréhender la référence du muet, là, je dis que sur La La Land, c'est déjà une catastrophe tellement c'est patiné, mais là, pour trouver les références, faut arrêter de déconner. Et en dernier, Ready Player One, qui pour moi est une catastrophe autre.
C'est pour ça que moi à l'inverse, autant Ready Player One, je partage ton avis. Ça m'a saoulé parce que ce mec-là m'intéressait pas. Moi, j'ai raccourci, mais j'ai peut-être déjà dit dans le podcast que je me répète. Moi, j'y allais avec l'idée de voir Minority Report dans la question de la virtualité. Enfin, il y avait tout un truc. J'ai vu les Goonies, j'ai vu un très mauvais les Goonies avec un casting naze de chez les Goonies. Bref. Mais par contre, j'ai confiance en Spielberg. Je pense que Spielberg a porté le projet trop longtemps, que le livre était trop vieux, qu'il y avait plein de faits que le projet ne marchait pas. Par contre, sur West Side, moi, j'ai confiance. D'abord, j'ai confiance sur une chose, c'est qu'il n'a pas changé la musique. Il a décidé de modifier les chorégraphies, de les rendre plus modernes, même si ça marche très bien. Regardez le film de Robert Wise de 62. Il est 62 ?
Ouais, alors ça marche très bien. Même à l'époque, tout le monde n'était pas non plus spécialement convaincu. Hein.
C'est pas ultra moderne.
Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que dans West Side Story, les loubards, ils font de la danse classique. C'est particulier.
Ça, il a changé un petit peu, effectivement, certainement pour analyser. Il a rendu le cast à portoricain pour des vrais portoricains, parce qu'ils ne l'étaient pas tous. Et en fait, par contre, il a changé évidemment zéro musique de Bernstein. La musique de Bernstein est telle quelle, parce que la musique de Bernstein, elle bouge pas. Donc voilà.
C'est moi le spécialiste. S'il avait bougé une seule note de Bernstein, là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je brûle les pellicules. Hein. Oui, bon, je sais qu'il y a plus de pellicules, mais quand même.
T'adaptes West Side Story.
Mais bon,
tu t'amuses pas toujours. Donc,
par contre, je suis persuadé que le projet peut-être était dans les tuyaux depuis un certain temps. Le projet ne doit son existence aussi au succès de La La Land et aussi à la vague qu'on a de retrouver les films musicaux. Alors, on va avoir des daubes. Moi, je n'ai pas vu Cats, je maintiens. Le Cats, c'est un truc à voir en spectacle. L'idée d'être adapté en film est nulle. C'est une très mauvaise idée. Je préfère même voir Le Fantôme de l'Opéra. Voyez-le.
Il n'y a pas une version de Romero.
Faites mieux, voyez Phantom of the Paradise de Brian De Palma, c'est beaucoup mieux.
Oui, alors, d'accord. Bon. C'est kitschouille, il y a trois thèmes qui se battent en duel. C'est niais, il y a un côté niais, sauf qu'il y a un côté rococo, un peu. J'aurais aimé que Baz Luhrmann fasse Le Fantôme de l'Opéra parce que c'est un peu pareil.
Oh là là.
Ça aurait été une très bonne idée. Parce que Michael Schumacher, c'est kitschissime.
Non, non.
C'est kitsch et il n'a pas le talent du.
C'est celui qui a fait Batman et Robin.
Oui.
Ouh là là.
En fait, c'est kitschissime et ça marche pas trop mal avec Le Fantôme de l'Opéra. La musique est kitschissime. La musique de Cat, c'est un peu kitsch, un peu beaucoup. Et en fait, donc c'est normal que ça marche pas. Mais c'est pas grave, il y en a eu plein, il y en aura d'autres, tant mieux. Mais ça quand même trouve son point d'origine un petit peu dans quelque part dans La La Land, dans le succès de La La Land.
Enfin, on parle quand même de Spielberg, le mec qui peut quasiment monter tous les projets qu'il veut. Je veux bien, que La La Land ait porté une certaine vague de films musicaux, mais il peut quand même porter à peu près ce qu'il veut. Et on parle quand même du seul film non historique qui ait dépassé les 10 Oscars. Oui, donc, je veux dire, là, non, oui, mais l'historique, celui-là.
Non, on parle de quoi ? Historique. Pourquoi tu dis non historique ? Je comprends pas.
Parce qu'avant, c'était Ben-Hur, les 10 commandements, qui avaient dépassé les 10 Oscars.
Ah, tu veux dire jusqu'à ce que ça arrive ?
Voilà, jusqu'à ce que West Side arrive.
Depuis, il y a eu.
Que Titanic.
Le Retour du Roi aussi.
Le Retour du Roi.
Ah oui, c'est vrai.
Il en a eu plein et c'était mérité, d'ailleurs.
Oui, Le Retour du Roi, mais c'est. Oui, mais. Alors.
Oui, non, mais...
Pourtant, Dieu sait que je suis un hardcore fan de ça, mais les 10 Oscars, 80% technique, ils récompensaient surtout les 3 films. Non, et je rappelle, ils ont surtout été techniques. Hein.
Mais après, non, mais attends.
Le West Side Story, quand il sort, il fait 11 Oscars. Il fait meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure musique, meilleur. Enfin, il fait tous. Oui, c'est mérité. Mais quand du coup, tu t'appelles Spielberg, tu dis je fais le remake de ce film, je refais ce film, je touche pas au livret d'origine, t'as pas de mal à trouver les fonds.
Je rappelle que le mérite n'est pas toujours ce qui donne des Oscars. Du coup, je rappellerai à qui veut l'entendre que Singing in the Rain n'a rien eu du tout hein, en 1952 ou en 53.
Mais on revient à ce que disait par rapport à l'Académie. L'Académie a besoin, à l'époque où sort Singing in the Rain, l'Académie n'est pas prête à entendre parler de cette partie de son histoire.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un succès à l'époque qui est complètement phénoménal. En salle, et puis quand on voit ce qu'il y a à ce moment-là, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir, en tout cas sur la qualité, mais il n'y a pas que la qualité qui joue. Something's taking over me, and I just know I feel so good tonight.
Et donc, c'est sur ces mots d'une incroyable intelligence de Michidar que nous allons rappeler l'enjeu de ce clash. Est-ce que, comme moi, vous pensez que La La Land n'est finalement qu'un énorme ressucé sursucré de toutes les comédies musicales des années 50 poussées au bout des années 2020? Eh bien, vous votez Arnaud.
Et si, comme moi et Michidar, vous pensez que c'est le premier souffle d'un renouveau du film musical, de la comédie musicale au cinéma, et que ça a ouvert quelque chose et qu'on est encore dans plein dedans, et malgré, et surtout grâce à toutes ces références, Jacques Demy, Singing in the Rain, Stanley Donen, tout le monde, votez pour Laurent sur le site www.thebroclash.
On vous mettra une partie donc, de nos références de coup de cœur et deux, trois trucs en plus si on y pense.
On peut retrouver Michidar où d'ici peu ou bientôt?
Je n'en ai absolument aucune idée. Y a peut-être des choses qui sortiront ou qui s'enregistreront. On a des idées de hors-série, de playlists. Voilà. Donc, on va voir. On n'est pas pressé.
Et on te retrouve où sur les réseaux sociaux?
Alors, vous me retrouvez sur Twitter, @michidar. Je crois que c'est tout. Sur Instagram, je dois avoir un truc aussi, mais je ne suis pas très actif. Donc, Twitter, ce sera très bien.
Rappelons la playlist, outre la playlist où Barberousse reçoit une personne et lui fait évoquer 10 titres de ce qu'il aime, plus un titre de la honte.
Quand il arrive à les contrôler.
Voilà, alors c'est des petites émissions en général. Hein.
Pas plus de 3 heures.
Oui, la dernière fait 3 heures.
Et la playlist est aussi, dans le flux de la playlist, vous trouvez aussi un calendrier de l'Avent qui était cette année assez...
Il était très conceptuel.
Voilà. Conceptuel.
Parce que autour de Barberousse, il y a Michidar, Iji, Fox, la plupart du temps, en référent, puis après des invités parfois. Il y a eu un hors-série, alors je sais, parce que moi j'ai eu la chance de participer à un hors-série sur Jean-Jacques Goldman. Ils font parfois des watermarks. Alors j'ai jamais compris d'où venait ce putain de titre d'ailleurs. Tiens d'ailleurs. Watermark, c'est-à-dire qu'ils prennent un album et ils le passent et ils le commentent au fur et à mesure des 10 titres.
J'en sais rien.
Et puis ils font des B-sides.
Le watermark, c'est de la copyright. Donc c'est pour éviter le copyright. Tu parles par-dessus.
Pas mal. Et ils font aussi ce qu'on appelle un B-side. Le B-side, a une émission, c'est une courte émission.
Oui, ça, j'aime beaucoup.
Oui, alors, c'est une courte émission. C'est pas ressorti depuis. Je crois qu'on en a dans la boîte, mais il faudra demander au patron. Il y en a dans la boîte qui sont enregistrés, normalement, qui devraient. Le concept du B-side, c'est qu'on est censé parler un tout petit peu de l'année à laquelle est sorti un single, de faire écouter le single, et de faire écouter sa face B, ou en tout cas son deuxième titre, ou sa B-side, appelez ça comme vous voulez. Qui, pour une raison ou pour une autre, nous a donné envie d'en parler. Des fois, la présentation de l'année à laquelle est sorti le single prend beaucoup de temps.
Ça arrive.
Donc tout ça se retrouve sur le flux de la playlist. Suivez Barberousse aussi, vous aurez tout ça. Merci beaucoup, Michidar, d'être venu.
C'était avec plaisir.
Pour retrouver les infos du Broclash, c'est sur le Twitter du Broclash, @thebroclash. Et moi, je suis sur Twitter, @LaurentDoucet.
Et moi, je suis sur Twitter aussi, @ArnaudDoucet, ArnaudDoucet.
Voilà. Et puis, d'ici la prochaine, cultivez-vous bien.
Cultivez-vous bien.
Cultivez-vous bien. I just know I feel so good tonight.